Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui le grand écrivain albanais Ismail Kadare, qui a été installé comme associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques le 28 octobre 1996 et qui vient de publier chez Fayard un roman intitulé « L'entravé », roman racontant l'aventure d'un grand dramaturge albanais qui se retrouve devant le comité du parti sous la dictature d'Enver Hoxha pour avoir dédicacé un ouvrage à une jeune femme qui s'est suicidée. Ismail Kadare, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre livre, comme nombre de ceux que vous avez écrits, permet de comprendre, comme peu d'autres témoignages l'ont permis, comment fonctionnaient au jour le jour les régimes totalitaires communistes, et le plus extravagant sans doute d'entre eux, celui de l'Albanie d'Enver Hoxha. Tout s'articulait autour d'une psychose permanente et paranoïaque du complot. Là, par exemple, tout part d'une simple dédicace. Et ça suffit à faire s'emballer la machine.
Oui, mais ça arrive même dans les autres régimes, parfois les choses pareilles. La littérature, elle, est en train de guetter ça, toujours. C'est-à-dire que, d'un côté, bien sûr, c'est que paranoïa d'un régime totalitaire communiste, staliniste, c'est bien connu. Mais en général, la littérature, c'est-à-dire, elle préfère les choses qui sont difficiles, lourdes, parfois impossibles.
Mais là, par exemple, on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit de gens importants, tout se fait en respectant les apparences de la plus grande courtoisie, mais en jouant en permanence la carte du silence et des mystères. Et finalement, ça amène le personnage principal à craquer, alors qu'on le traite avec apparemment beaucoup de différence. Mais on se tait et on laisse les mystères agir. C'est comme ça que ça fonctionne ? C'est prévu de façon intelligente, comme ça ?
Ah oui, bien sûr, toutes les dictatures sont... Qu'est-ce que c'est une dictature ? C'est une machine. Comme machine, elle a... ces lois antérieures qui fonctionnent, ces mécanismes antérieurs qui sont parfois dans la logique d'une tyrannie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une dictature, on ne peut pas imaginer comme quelque chose de stupide, hein, de débile, parce que les dictatures, ils seront tombés très vite s'ils seront là. Ils sont très, très intelligents parfois, et ils font les calculs très, très froids. Ils traitent les gens différents avec les façons différentes. Par exemple, la machine de terreur, c'est parmi les plus perfectionnés. Mais elle n'est pas une machine idiote. Elle est très, très intelligente parfois, oui.
Et c'est ce qu'on découvre dans ce livre, d'ailleurs, avec beaucoup de surprises, quand on n'a pas connu cette réalité-là. Et on voit bien comment, en face donc, de cette technique, la personne visée risque peu à peu de perdre pied. Hein. Il passe par tous les états, il cherche toutes sortes d'explications, et il finit par se détruire lui-même. Finalement, la police, la justice n'ont pas grand-chose à faire. C'est lui-même qui fait le travail pour eux, non ?
Oui, c'est ça. Une des lois de la tyrannie pour saper les gens à l'intérieur, c'est-à-dire de déstabiliser d'une façon, pas directe parfois, mais complètement indirecte, les gens qui vivent dans une dictature ou dans un pays totalitaire, ils ne sont pas parfois conscients de cela. Ils pensent qu'ils vivent parfois, quand ils sont un peu naïfs, dans un pays normal. Et jusqu'à une... âge de la jeunesse, par exemple, la plupart des adolescents, par exemple, si on demande est-ce que vous vivez dans un pays libre ou non, ils seront étonnés dans une dictature. Disons oui, c'est un pays normal, bien sûr. Parce que tellement un pays, qu'est-ce que ça veut dire, totalitarisme, ça vient du mot total, c'est-à-dire tout c'était calculé d'une telle façon qu'il donne l'impression d'une réalité qu'il est suffisante, autosuffisante. Il ne faut pas oublier à cela que les régimes totalitaires du XXe siècle, ils ont occupé dans le globe terrestre un espace colossal, énorme. Et le facteur de l'espace, qui parfois on oublie, c'est un facteur déterminant pour créer cette psychose qui vous pousse vers l'idée que c'est une réalité normale, c'est-à-dire.
Et de ce point de vue, le totalitarisme soviétique est le totalitarisme qui, dans l'histoire, a occupé la surface la plus grande.
Bien sûr, c'était, oui. Le malheur, c'était un pays colossal comme surface. Et à part cela, il ne faut pas oublier que c'était ajouté un autre pays gigantesque, c'est la Chine. C'est-à-dire, alors, les deux géants, ils sont liés ensemble. Et dans la plupart des citoyens qui vivaient là-bas, ils pensaient que c'est
c'était ça, la normalité.
Normalité, c'est ça, le monde permanent déjà. Et, tandis que l'autre monde, c'est-à-dire le capitalisme, la bourgeoisie, entre guillemets, ce sont provisoires, déjà provisoires.
Alors l'intérêt, lorsqu'on lit un texte d'écrivain et non pas simplement de journaliste, est de montrer la complexité vraiment des choses. Et là, on voit que le dramaturge soupçonné, il peut à la fois multiplier les gestes de courage et de provocation et en même temps les gestes de lâcheté. Il fait les deux. Il s'adresse au juge pour essayer de voir la jeune fille qu'il veut voir et en même temps, il provoque la police en allant dans le bar de l'hôtel dont on sait qu'il est le plus surveillé. Enfin, il est capable et il accepte de faire des autocritiques quand on lui demande parce qu'il veut à tout prix écrire. Donc, ça montre la complexité, la très très grande complexité de l'être humain, votre roman.
En général, je pense que le geste, le fait qu'il a demandé au juge de trouver sa maîtresse, ce n'est pas un geste de lâcheté, je crois. Au contraire.
Ah, vous ne l'avez pas interprété comme ça?
Non, au contraire, je pensais, peut-être que j'ai mal, j'ai mal écrit ça, mais je pensais qu'il a... C'est plutôt une indifférence, c'est-à-dire qu'il voulait résoudre un petit problème de lui, trouver sa maîtresse. Et il oublie que c'est un juge d'instruction. Il veut utiliser lui pour que lui trouve le.
Ouais, donc trouble. Un oubli de sa part plutôt qu'un calcul.
Oui, parce que c'est plutôt une indifférence, c'est plutôt une sorte de mégalomanie même. C'est-à-dire que dans sa conscience, il pense pourquoi ne pas profiter que ce petit juge d'instruction, il me trouve ma maîtresse, il a perdu, il n'a pas l'adresse.
Oui. Alors, pour pouvoir continuer à être joué en tant que dramaturge, il accepte de faire des autocritiques et tout simplement, parce que vous le dites, c'est un personnage donc, qui est assez nerveux, donc il fait deux autocritiques comme ça en l'espace d'une année, il accepte tout.
Premièrement, il faut préciser que moi, j'ai décrit un dramaturge moyen et pas du tout un grand dramaturge.
Il est suffisamment connu pour être quand même traité avec...
Oui, il est connu, mais en général, les écrivains et les artistes dans le monde communiste, ils avaient un certain statut, toujours. Il n'y a pas eu, par exemple, le deuxième, troisième degré. Au contraire, l'État, il voulait bien laisser comprendre de tous les écrivains ou les artistes, soit-ils de génie ou soit-ils médiocres, ils sont traités presque d'une façon égalitaire. C'est un des principes numéro un. C'est-à-dire que les grands écrivains, entre guillemets, oublient qu'ils sont les grands.
Oui, c'est ça.
Ils sont comme les autres. Et en même temps,
oui,
il ne faut pas oublier.
Comme disait Mao, oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Les médiocrités, ils oublient qu'ils sont médiocrités, oui, mais ils sont aussi importants que les grands. C'est ça, ils ont réussi, avec beaucoup de succès, travailler avec la jalousie entre les créateurs.
Alors, il y a toute cette mécanique de l'oppression donc, qui fonctionne très, très bien. Et puis, il y a de l'autre côté une bouffonnerie permanente et vous montrez que les deux sont complètement associés. Alors, il y a ce personnage du guide suprême qui suit l'affaire du dramaturge et qui se fait se raconter tout dans le détail. Mais est-ce que vous pensiez à Enver Hoxha lorsque vous faites dire à ce guide suprême « Ah, celui-là, on ne va quand même pas l'exécuter parce que je défends tous les écrivains ». Est-ce que c'était le cas d'Hoxha?
C'était un peu le cas d'Hoxha. Il fait la même chose que tous les dictateurs, la même chose que Staline parfois, même que Staline, il était beaucoup plus direct dans sa dureté. Mais Hoxha, il était obligé un peu de jouer le rôle, parce qu'il avait le rôle d'un intellectuel albanais qui a fait ses études ici en France. Alors il était obligé d'être un peu, il était piégé un peu par son modèle qu'il a lui-même suscité chez les autres. C'est-à-dire qu'il a nourri cette idée que c'est quelqu'un de cultivé, un grand intellectuel, etc., etc. Et de temps en temps, il était obligé de jouer ce rôle.
Alors, il y a donc dans le roman, au premier niveau de lecture, cet exemple de fonctionnement de la mécanique totalitaire, communiste albanaise. Et puis, il y a un autre niveau de lecture, celui d'une interprétation du mythe d'Orphée. Alors, je rappelle les bases de cette grande référence mythologique. Donc, Eurydice meurt de la morsure d'un serpent, elle descend donc dans les ténèbres. Et Orphée, qui est un musicien quasi magique, descend dans l'Hadès, il enchante par sa musique le roi Pluton et son épouse Proserpine, ainsi que les ombres des morts, et il obtient de ramener Eurydice dans le monde des vivants à une condition, celle de ne pas se retourner vers elle durant le voyage de retour. Malheureusement, il se retourne et Eurydice disparaît. Alors, dans votre livre, Eurydice, c'est une jeune collégienne qui s'appelle Linda B, qui appartient à une famille reléguée dans une ville de province. Une relégation qui correspondait, vous semblez le dire, à une véritable descente aux enfers dans ces pays quand on était...
Oui ? Absolument, oui.
Et on a même l'impression que le pouvoir fait en sorte que les gens aient l'impression qu'ils n'existent plus.
Oui, on a oublié, ils sont presque de l'autre côté du miroir. Ils n'existent plus. Oui.
Ils ne vivent plus.
Parce que même la relégation, c'était un châtiment, c'est-à-dire c'était une punition illégale, même pour le communisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les juges qui vont décider combien d'années tu vas purger ta peine. Au contraire, c'était une décision politique, officiellement politique.
Et là,
sans explication.
Là, c'était tous les 5 ans, un papier.
C'est un papier qui arrivait tous les 5 ans. Aucune explication, c'est-à-dire, pour le régime communiste, même, c'était hors de loi.
Hors de loi. Alors, il y a cette mort-là, et puis il y a l'autre mort, peut-être plus perverse encore, pour cette jeune fille, c'est qu'à l'école, tous ses camarades la traitaient comme une pestiférée. Enfin, il ne fallait pas la toucher, il ne fallait pas s'en occuper. C'est quand même étonnant, cette façon de traiter les gens.
Plutôt dans mon roman, j'ai traité une relégation, pour ne pas dire douce, mais moyenne, c'est-à-dire. Parce qu'il y a eu...
Il y a eu pire.
C'était pas les pires des
relégations. Oui, mais quand même, Ismaïl Kadaré, ça ne devait pas être très simple, car il se passe quelque chose de tout à fait sidérant dans votre livre. Cette jeune fille passe une mammographie, donc un examen pour détection du cancer, en souhaitant avoir le cancer pour pouvoir quitter sa ville de province et aller à Tirana. Là, on est dans l'absurdité la plus totale, quand même.
Quand j'ai dit que j'ai traité une relégation, pas les pires des relégations, je dois dire que cette jeune fille, il y a eu le destin encore plus amer, terrible d'elle. Voilà pourquoi elle était dans une gradation moyenne de la souffrance. Pourquoi ça? Elle allait à l'école, elle pouvait aller dans le bal, danser, avoir les copines, etc. etc. C'est-à-dire, ça, c'est... Il y a eu les autres qui étaient dans les goulags, dans les camps de concentration.
Mais y compris les jeunes filles.
Ah oui, il y a les familles entières aussi. C'est-à-dire, il y a les autres degrés encore plus sévères, beaucoup plus terribles. Moi, j'ai traité, comme à peu près, vous souvenez peut-être, l'œuvre de Solzhenitsyn, de premier cercle. Il traitait le premier cercle seulement, mais il y a eu les autres après. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, cette jeune fille, elle a cette tristesse énorme qu'elle voulait avoir un cancer pour aller à Tirana, mais il y a eu les autres qui ne pouvaient pas sortir de Barbelé.
Il y avait encore pire, oui. Alors, son rêve, c'est donc d'aller à Tirana, et puis elle a un autre rêve également, c'est de rencontrer donc le dramaturge, dont vous dites que son niveau était d'un niveau moyen, mais enfin, il était quand même connu. Et grâce à une amie, dont les parents sont mieux perçus par le régime, donc elle s'appelle Linda Bay, son amie s'appelle Miguena, et Miguena obtient du dramaturge un livre dédicacé. Et à ce moment-là, la vie de cette jeune fille se transforme, mais son ami Miguena et le dramaturge n'arriveront ni à la faire aller à Tirana, ni à l'empêcher de se suicider. Donc c'est un double échec, c'est comme l'échec d'Orphée. Mais à cette occasion-là, vous semblez nous dire que nous avons mal compris le mythe d'Orphée, et vous posez une question tout à fait étonnante en nous disant, au fond, le mythe d'Orphée, c'est peut-être une duperie totale. Vous pourriez nous expliquer votre interprétation de cela? Parce que c'est la première fois, c'est un mythe qui a traversé au moins 25 siècles, et c'est la première fois qu'on dit ça. Vous dites, le mythe d'Orphée, c'est peut-être une duperie totale. C'est-à-dire qu'en réalité, Orphée ne se serait pas retourné. Vous dites-vous, il n'y aurait pas eu d'Eurydice non plus. C'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, premièrement, je dois dire que c'est, tout le monde il est d'accord que c'est le mythe, on a jugé le mythe le plus obscur d'humanité. Obscur, c'est-à-dire pas dans le mauvais sens, au contraire, dans le brouillard, c'est-à-dire comme les grands mythes, toujours ils ont ce côté mystérieux, toujours les présente. Et lui, il est pour moi, c'est le plus beau mythe d'humanité, le plus universel.
Qui a inspiré Gluck, Haydn,
Absolument. Monté, sans fin.
Oui. Tintoret, Bruegel, Rubens, Tiepolo, etc.
Elle va inspirer toujours, parce que c'est une histoire qu'il y a millions de façons, qui était vécue par les millions de gens, par les milliards même, d'une façon différente, dans les doses différentes. Commencer par les tout petites doses jusqu'à les doses colossales, c'est-à-dire. C'est le mythe de la perte, ou de la perte réelle, ou de la perte imaginaire parfois, de la perte objective et subjective en même temps. Sont mélangés. C'est-à-dire, voilà pourquoi elle est très universelle. On ne peut pas rencontrer un être humain normal qu'elle n'a pas vécu d'une façon ou d'autre une tout petite partie de cette mythe, grande mythe d'Orphée. C'est-à-dire, quand vous avez perdu quelque chose, moyenne, grande, très grande, colossale. Jusqu'à... Alors, vous m'avez demandé, vous avez très bien expliqué le mythe, vous m'avez demandé comment cette interprétation nouvelle, l'interprétation
oui, ça,
que j'ai faite, c'est pas nouvelle en effet, c'est logique. Parce que...
Moi, je n'ai jamais lu ça avant vous, de dire qu'en fait, il y a une duperie totale. Enfin, il pourrait y avoir une duperie totale. Et que,
si j'ai dit, si c'est, je suis premier que j'ai dit, je suis très fier, mais je ne sais pas.
J'ai l'impression. Écoutez, peut-être. Ma culture n'est pas assez grande pour être péremptoire, mais.
Alors, qu'est-ce que. J'ai pensé longtemps. J'ai aimé ce mythe quand j'étais de mon adolescence. Hein. Ça m'a paru très proche, mais d'une, toutes les étapes de ma vie interprétées d'une façon différente, selon l'âge. Hein. Alors, enfin, selon moi, c'est-à-dire, c'est quelque chose de soi-disant mythique. Qu'il est bien calculé et ça doit être bien, bien réel. Vous dites à quelqu'un, si vous tournez la tête, ce que vous avez rêvé et qui est après vous sera disparaître. Et ici, ça commence la duperie. Ici, ça commence le mensonge, le grand mensonge. Ici, ça commence cette perte de la frontière entre les réalités et irréalités. Parce que vous ne pouvez pas jamais savoir si... cette chose-là qui venait après vous, ça existe vraiment, ou ça vient vraiment, ou non. Parce que dès que vous avez cet pacte, vous avez accepté le pacte que après le tournage de votre tête, ça sera disparaître, ça va disparaître. Alors, de ce moment, ça n'existe plus. Hein. Ça veut dire que c'est une vide, c'est un jeu très lourd, très dur, c'est un macabre même. Et vous ne pouvez pas jamais vérifier ça. Vous ne pouvez pas jamais vérifier ça. La seule chose que vous pouvez vérifier ça, c'est que vous ne tournerez jamais la tête. Alors, si vous ne tournerez jamais la tête...
Oui, mais vous ne saurez pas non plus.
Voilà, c'est la même chose. Alors, vous savez, c'est une duplicité diabolique où elle rassemble et ne rassemble pas avec beaucoup de choses dans la vie. Mais son ressemblance est très difficile et très diabolique aussi. Voilà pourquoi ce mythe, on a qualifié le plus obscur mythe humanitaire.
Mais l'interprétation que vous donnez donc là de la duperie, est-ce que ça voudrait dire, en allant encore plus loin, que finalement nous sommes toujours dupes de notre destin enfin...
Oui, d'une façon ou d'autre, oui.
Vous le croyez, bien sûr.
Il y a quelque chose qui nous échappe toujours. Il y a quelque chose devant lequel nous... seront arrêtés toujours. On ne peut pas aller plus loin, ce n'est pas permis, c'est-à-dire par qui ? Je ne sais pas, mais dans notre cerveau, il y a une frontière qu'on ne peut pas aller plus loin.
Alors, vous dites que le mythe d'Orphée est le mythe qui vous attache le plus, auquel vous êtes le plus attaché, mais vous êtes déjà inspiré hein, des grands thèmes de la mythologie. Par exemple, le mythe d'Énée est un mythe que vous avez traité dans un roman que vous avez publié il n'y a pas 10 ans, hein, « Vie, jeu et mort » de Lulle Masrec. Mais d'une façon générale, vous êtes-vous très sensible au goût des habitants de votre pays, et d'une façon générale, des habitants des Balkans pour la poésie et les légendes, et vous vous êtes servi de cet aspect-là aussi pour dénoncer les dictatures totalitaires. Mais il y a, dans votre livre, il y a quelque chose qui est à la limite du fantastique. J'aimerais bien que vous nous expliquiez à quoi ça correspond, parce que j'avoue que personnellement, je n'ai pas compris, j'ai été fasciné par ça, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il y a le fantôme, le fameux fantôme, donc, qui est dans la pièce de ce dramaturge donc, qui sert de fil conducteur au livre, pièce qui est refusée à cause de l'existence d'un fantôme, mais ce qui me frappe dans l'existence de ce fantôme, c'est les caractéristiques que vous lui donnez. Vous dites que c'est un fantôme qui a une biprobabilité et une nature duale. Il est capable de rentrer et de sortir d'un corps, et il est capable d'être entendu par certains et pas par d'autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ça ? Parce qu'on reste devant ça, on se dit, tiens, je voudrais bien comprendre.
C'est pas facile pour moi aussi comprendre. Je dois dire simplement que l'univers des fantômes, c'est très riche. La littérature a utilisé avec beaucoup de succès les fantômes. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3000 ans que la fantôme, parce qu'elle est presque une création littéraire. Alors, ici, oui, j'ai donné une caractéristique un peu étonnante de fantôme-là.
Il est étonnant, votre fantôme-là.
Mais tous les fantômes sont intéressants. L'histoire des fantômes, comment ils sont été passés d'une époque littéraire à l'autre, c'est très intéressant. Comment le premier qu'il a utilisé, c'était, bien sûr, c'était Homère, comme toujours, il est, lui, le premier. Après, c'était le théâtre grec, mais pas beaucoup. le théâtre romain un peu plus. Et il a redonné la vie aux fantômes, c'est Shakespeare. C'est-à-dire, sans fantômes, on ne peut pas imaginer la grandeur de Shakespeare.
Le commandeur, oui.
Et après Shakespeare, il était un peu... la littérature était un peu, je dirais, fatiguée de ça. Ou peut-être, puisque Shakespeare, il est arrivé dans un
tel niveau. Que...
Un niveau absolument colossal. Hein. Les autres ne voulaient pas faire concurrence avec lui. Ils ont abandonné. Mais de temps en temps, les écrivains ils se retournent à ce joyau de la littérature. En
effet. Et un joyau qui fait peur à tous les régimes dictatoriaux. Enfin, là,
surtout.
C'est ça, là,
oui,
ils ne comprennent pas, ils bloquent la pièce.
Oui, le communisme a presque interdit. sans dire que c'est interdit, non, c'est nulle part. Mais, il a interdit toute la littérature, soi-disant grande littérature communiste, même par les grands écrivains, qui sont vécus dans le régime communiste, sauf Bulgakov, qu'il a utilisé un peu, les autres n'ont pas.
Interdit. Pourquoi ? Parce que ça ne se maîtrise
parce
pas.
Parce que c'était contre la base du marxisme-léninisme, contre ce concept matérialiste de la vie.
Ah, oui,
c'était,
oui.
C'est-à-dire, pour dire, comme une sorte de condensation, de la mystification de la religion ensemble, c'est-à-dire c'était tout ce qui était interdit, spirituellement interdit dans le monde communiste, c'était présenté par un fantôme. À part cela, la plus importante, c'est que la fantôme, c'était lié au crime, plutôt. Et si c'était quelque chose que le communisme avait peur, c'était la découverte des crimes, les assassinats cachés, les mystérieux. L'histoire du communisme, du stalinisme, de tous les pays communistes, elle est pleine de mystères, surtout des assassinats, et c'est-à-dire pleine de fantômes. Parce que c'était comme une sorte d'horreur de ils vont revenir pour demander, pour découvrir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fantôme, c'est là. Le contenu d'un fantôme, avant tout, c'est savoir le crime. Le fantôme d'Hamlet, le père d'Hamlet, il était venu pour découvrir le crime à son fils. Mais vous savez, c'était une époque entière qu'il avait peur de ça. Après la chute du communisme, vous savez, le Conseil de l'Europe a conseillé à tous les pays communistes ouvrir les archives secrètes. Et qu'est-ce que sont les archives secrètes ? Ce sont avant tout les archives du crime. Hein. Mais les pays, ils ont fait avec beaucoup de flegme. Beaucoup de... Voilà. Et moi, dans mon livre, je traite ça, ce problème-là,
oui, ça.
Qui est encore vivant pour l'Albanie.
Donc on saura que le fantôme peut avoir cette signification hautement politique.
Voilà, absolument, oui.
Alors, venons-en à votre situation actuelle d'écrivain. Donc vous êtes, c'est une banalité de dire que vous êtes l'un des principaux nobélisables depuis déjà un certain temps au monde. Et votre femme, Elena, a semé le trouble dans le monde littéraire en écrivant dans un livre qu'elle vient de publier, Le Temps qui manque, que ce roman, donc L'Entravé, dont nous parlons, serait le dernier roman que vous écririez dans votre vie. Comme vous publiez pratiquement un ouvrage tous les ans, on s'est dit, mais qu'est-ce que va faire Cadaret ? Est-ce qu'il va vraiment arrêter d'écrire des romans ? Ou est-ce qu'il va, car vous avez déjà écrit pratiquement dans tous les genres, hein, je ressentais ce que vous avez écrit, vous avez écrit des récits, des recueils, des nouvelles, de la poésie, même une pièce de théâtre. Alors, est-ce que vous avez arrêté d'écrire, ce qui nous paraît phénoménal, ou est-ce que vous allez maintenant vous consacrer à d'autres genres ? Et dans ce cas-là, pourquoi l'abandon du roman ?
C'est pas facile moi-même d'expliquer ça. C'était simplement, c'était émotif. C'était quelque chose de très direct qui était dans ma conscience. Je suis pas repenti à cela. Je ne sais pas si ma femme doit dire ça ou peut-être non. Elle a dit, elle avait le droit de le dire. Mais je ne déclarais pas que je n'écrirai jamais. Non, je n'écrirai plus les romans.
Vous allez faire autre chose.
Un jour, j'ai dit la même chose pour le poème et j'ai tenu ma parole.
C'est-à-dire... Vous aviez commencé par des poèmes.
Les premiers
livres de vous sont des recueils de poèmes.
Voilà. Et après, il y a 10 ans auparavant, 15 ans même, j'ai dit, je n'écrirai plus les poèmes. Parce que ça m'a paru que ça sera comme ça. Je n'ai pas tenu la parole pour quelques années, mais maintenant, je tiens la parole, il y a 10 ans que je n'écris plus. Le roman, c'est quelque chose un peu plus loin, mais... dans cette phase toujours, c'est-à-dire romantique de l'écrivain. Peut-être je me trompe, mais je pensais comme cela. Mais je vais écrire l'autre chose. Je n'ai pas calculé ça, mais par exemple, je viens de publier un livre, un essai, qui a été beaucoup de bruit en Albanie. La discorde, ça s'appelle, les rapports de l'Albanie avec elle-même. Vous pouvez penser que c'est un sujet qui s'intéresse toujours seulement à notre pays. Non, j'ai écrit ça comme une phénomène presque universel. Qu'est-ce qui arrive avec un pays qui a problème avec soi-même?
Alors ça, ça n'est pas encore traduit en
français. Non, c'est pas traduit, vous avez raison.
On peut peut-être déjà en parler, parce que votre pays, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. C'est un pays de montagnards, deux tiers pays de montagnards, d'hommes libres, et pourtant, rarement un pays aura subi autant d'invasions et autant d'oppression. Enfin, si on prend l'oppression ottomane, l'oppression fasciste, l'oppression communiste, comment vous conciliez les deux? À la fois ce goût extraordinaire de la liberté qu'ont les Albanais, ces montagnards de la liberté, et cette terre d'invasion, cette terre d'oppression. Comment vous conciliez les deux? Qu'est-ce qui explique?
C'est un peu plus simple tout cela. C'est une grande région de l'Europe, c'est les Balkans, qui ont à peu près le même destin. Ils ont connu tout ce que vous avez très bien dit. Ils ont connu tout cela. À peu près le même destin. Ils ont passé par tous ces empires-là. Et maintenant, ils ont, première fois dans l'histoire des Balkans, les pays balkaniques, ils sont à peu près pas tendres l'une à l'autre, au contraire. Ils ont une vocation commune, un rêve commun. Faire partie de la famille européenne. C'est la première fois qu'ils ont la même vocation, le même rêve.
Oui, parce que c'est un pays morcelé, on le voit, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs un jour, comment trouver une unité dans un monde où il y a quatre alphabets. Il y a quatre alphabets hein, dans les Balkans. Il y en a quatre.
Quatre
hein.
ou cinq, oui. Quatre, c'est cinq, sûr. Quoi. C'est-à-dire c'est l'alphabet grec, oui. L'alphabet slave, mm-hmm. L'alphabet latin. Non, trois, je crois. Je ne sais pas s'il y a un mélange, mais il y a plusieurs langues.
Oui.
Et quand il y a les quatre alphabets, c'est-à-dire c'est un alphabet indo-européen seulement, et les autres ne sont pas.
Donc vous dites l'idéal c'est l'Europe, mais ça veut dire d'un autre côté que nous, Union européenne, nous n'avons pas compris ça. Parce que depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute d'Enverroja, on aurait pu quand même nous tourner un peu plus vers votre pays en particulier. On ne l'a pas fait. L'Europe n'a pas tendu la main à l'Albanie, vraiment.
Non, il faut être précis dans ce cas-là, c'est-à-dire parfois les peuples du Balkan, ils ont une mauvaise habitude de plaigner contre les autres et les choses qu'ils ont faites contre eux-mêmes, ils aiment bien interpréter comme il a fait quelqu'un d'autre. Et parfois ils ont contre l'Europe une sorte d'amertume, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la faute de l'Europe, qu'il était détaché de l'Europe.
Mmh. Ils ont été deux fois détachés de l'Europe. Hein.
Deux fois.
Au XVe siècle.
Non plus leur faute, mais c'était comme ça, le destin historique. Ils ont détaché de l'Europe au XVe siècle parce que l'Empire ottoman a attaqué l'Europe. Et malheureusement, il a détaché un morceau de l'Europe. L'Europe ne pouvait pas défendre. Ce n'est pas sa faute. Hein. Les Ottomans, ils ont allé jusqu'à Vienne. Ils voulaient l'Europe. À part cela, une grande partie des Balkans, la plupart, ils ont tombé sur l'Empire communiste soviétique. Est-ce que c'était leur faute? Partiellement, oui. Partiellement, non.
Il y a une chose étonnante hein, quand vous parlez de l'Europe et des Balkans. Vous dites, je ne sais pas où vous avez écrit cela d'ailleurs, c'était dans votre discours de réception à l'Académie des sciences morales et politiques en tant qu'associé étranger, que dans les chansons et les légendes des Balkans, l'Europe était associée à l'image d'une femme.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est vrai?
Mais
belle, intelligente et inaccessible. Voilà, les trois adjectifs.
Intelligente, inaccessible. Et je n'ai pas dit une quatrième qualification. Parfois, comme une femme immorale, c'est-à-dire.
Immorale, oui.
Donc, malheureusement, dans les chansons parfois vulgaires.
Encore plus attrayante, quoi.
Ah, ouais, c'est-à-dire, oui. Avec cette duplicité que l'on a des belles femmes.
Oui. Mais vraiment, vous imaginez l'Europe sous cette image-là, vous?
C'était longtemps qu'il était imaginé comme ça, dans tous les Balkans, à peu près. Il y a eu l'amour, la haine, la jalousie, tout ça, c'était mélangé à cette image. Mais le fait que les Balkaniques, plus que les autres, aiment aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire que dans leur profondeur, depuis longtemps, ils ont... C'était pas un vrai sentiment, ça. C'était quelque chose qui était très émotif, par désespoir, plutôt.
D'un amour déçu, quoi.
Absolument, c'est ça, oui, oui.
Alors revenons à votre travail d'écrivain. La plupart du temps, on se dit qu'un écrivain, face à la dimension tragique de la vie, il doit nous faire comprendre les choses, il doit simplifier les choses. Or vous, à travers vos livres, on a l'impression que vous nous dites quasiment l'inverse. Vous nous dites que le travail de l'écrivain, c'est de montrer que les choses sont complexes, qu'il y a du mystère, et que c'est ça, votre vocation. Je me trompe ou pas?
Non, vous ne me trompez pas, parce que la littérature, elle, vraiment, elle a... Elle ne ressemble pas beaucoup à la vie, parfois. Et pas parfois, mais en général, elle ne ressemble pas. Et c'est dommage quand les gens qui sont occupés de l'étude littéraire il donne beaucoup d'importance à ce fait que, est-ce que ça arrive dans la vie ou non, est-ce, pourquoi c'était traité comme ça dans la littérature et pas comme ça dans la vie. Ça, ce sont vraiment les discussions de très bas niveau. On ne peut pas juger comme ça la littérature. La littérature, c'est controversée, parfois universelle. Elle ne fonctionne pas avec les mêmes lois que la vie. Au contraire, parfois, moi je dis ça plusieurs fois, par exemple, nous voulons tous, et tout le monde aspire pour la démocratie, et pour cette égalité entre les gens, etc. Malheureusement, la littérature, si elle peut fonctionner comme ça, la littérature doit être disparaître.
Oui, elle disparaît, elle est morte.
Depuis toujours. Hein. Elle fonctionne par les autres lois. Et grâce à cela, elle est vivante. Elle va vivre toujours.
D'ailleurs, dans ce roman-là, mais je ne vais pas le raconter, hein, parce qu'il faut laisser la part de surprise quand même, il y a une vraie part de fantastique. Il n'y a pas simplement la référence au mythe, il y a du fantastique. Il y a des moments où chacun peut avoir son interprétation devant des phénomènes qui sont, disons, presque paranormaux, quoi. Pour employer un langage d'aujourd'hui.
Tout c'est permis dans la littérature,
oui, c'est ça, sûr. C'est ça. Mais quand vous faites ça, quelle réaction souhaitez-vous qu'ait le lecteur ? Je pense, enfin, on se le dit entre nous, la dernière page. On ne va pas la raconter. Mais la dernière page, qu'est-ce que vous souhaitez que fasse le lecteur devant cette surprise étonnante, là, ce qui se passe dans la dernière page, qui est hors de la réalité habituelle ? Est-ce que vous souhaitez qu'on ait...
Qu'il reste comme ça, au moins une minute.
En suspens, un peu en suspens.
Qu'il y aurait, oui, avoir une réflexion un peu.
Donc
étrange de la vie. Oui.
C'est ça, hein. La littérature doit nous ramener à ce qu'il y a de plus mystérieux en nous.
Pourquoi pas, oui.
Au respect de ce qu'il y a de mystérieux
en nous.
Absolument,
oui.
Alors, vous avez écrit un essai tout à fait remarquable sur Eschyle. Eschyle, donc le fondateur, on peut dire, de la tragédie dans l'histoire, et qui avait connu exil à la fin de sa vie, donc sur les côtes d'Illyrie d'abord, et puis ensuite en Sicile. Et vous dites ceci à propos d'Eschyle. Vous dites « Il sentait au plus profond de lui que la Grèce continuait de peser de tout son poids sur son échine, et il y aurait beau écumer de rage, secouer les épaules avec fureur, il ne parviendrait jamais à s'en libérer. Il porterait la Grèce, et la Grèce le porterait. » Or, vous vivez le plus souvent en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire exactement pour vous la même chose de l'Albanie que vous ne disiez de la Grèce pour Eschyle ?
Il ne faut pas oublier que j'ai écrit cet essai à l'année 85, à l'occasion de publication de théâtre d'Eschyle en Albanie communiste. Même Hoxha était encore vivant, c'était janvier.
Ah, il a autorisé ça ?
Non, pas autorisé, mais c'est passé comme ça. C'était comme une préface pour Eschyle. Et c'est-à-dire que il ne faut pas juger comme ça. J'ai écrit ça dans les conditions...
C'est un contresens historique. Ah,
absolument. Oui.
Oui, c'est ça. La question est très directe. Hein. Vous n'êtes pas obligé.
Oui, c'est
vous avez le droit à un joker. Est-ce que vous considérez votre vie ici, l'exil ici, comme un échec, ou est-ce que vous considérez qu'il est tout à fait normal que vous soyez ici plutôt qu'en Albanie ?
Premièrement, je ne suis pas un exilé ici.
Non, bien
je
sûr.
Je partage ma vie entre mon pays et la France.
Ici, vous êtes accueilli, vous avez été accueilli tout le temps à bras ouverts, c'est le moins qu'on
puisse
dire.
Oui, c'est vrai, je suis très reconnaissant de ça.
Votre talent a été reconnu dès 1963.
Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, chaque année que ça se passe, pour moi, ça devient tout naturel que l'Albanie, enfin, fait partie du continent européen. C'est-à-dire cette distinction tragique qui était avant, entre mon pays et l'Europe, mon pays et la France, c'est-à-dire, c'était depuis longtemps, c'était étouffé déjà. C'est-à-dire. Et pour moi, c'est normal vivre la moitié de ma vie ici et la moitié là-bas. C'est-à-dire, ça ne me gêne pas du tout. Je ne suis pas obligé de telle ou telle raison pour faire ça. Au contraire, ça vient de façon tout naturelle. C'est-à-dire. Et c'est-à-dire, ça me réjouit parce que ça donne cette harmonie qu'il doit avoir un écrivain qui, au moins, il y a qui s'espace pour être un écrivain de son pays et de l'Europe en même temps.
Mais c'est-à-dire que pour les Albanais, vous avez été un passeur de la culture occidentale, quelque part.
Non, pour eux aussi, ça qui est le plus étrange, c'est que pour mes lecteurs en Albanie, c'est la même perception de moi.
Oui,
ils me considèrent comme un écrivain albanais et en même temps européen. C'est-à-dire c'est une coïncidence presque parfaite entre les deux.
Ils doivent être fiers quand même, non ?
Oui, ça me réjouit, vraiment.
Alors, il y a une phrase, depuis que j'ai lu votre livre, tous les jours je pense à cette phrase. C'est un personnage de la dernière pièce, donc de Rudian, le fil conducteur du livre. Dans la pièce, c'est le meurtrier. Et le meurtrier dit ceci. Écoutez bien ce que vous avez écrit. « L'humanité, comme le chat, recouvre d'elle-même la vérité. » Vous partagez vraiment une vision aussi pessimiste de la vie et du monde ?
J'ai écrit ça ?
Oui. L'humanité comme le chat, page 86. L'humanité comme le chat recouvre d'elle-même la vérité. Et vous détaillez, en plus, et vous le faites très bien, si je retrouve ça. C'est quand même étonnant, cette phrase. Hein. C'est ça, voilà. Jamais l'humanité comme le chat recouvre d'elle-même la vérité, les livres, les doctrines, les élucubrations à n'en pas finir, le gauchisme comme maladie infantile, le droitisme du troisième âge, et patati et patata. Tout cela s'occupe de tout recouvrir. C'est une vision très sombre de l'humanité, quand même, ça.
Non, je ne me souviens pas dans quelles conditions j'ai écrit ça.
Tenez, je vous le passe. Ah, vous le passe.
Merci, oui.
Regardez. Parce que c'est quand même impressionnant. Hein. Je répète, l'humanité, comme le chat, recouvre d'elle-même la vérité. C'est quand même sur notre monde.
Alors, il ne faut pas oublier que ce sont les...
C'est le meurtrier qui dit ça.
Le monde meurtrier d'un criminel.
D'accord, meurtrier. Mais vous lui avez laissé écrire ça, quand même.
Oui, je dois donner la parole au meurtrier aussi.
Donc, non, c'est non, pas... Sans...
Voilà
donc...
pourquoi j'étais étonné un peu, parce que c'est vraiment, c'est un criminel qu'il parle.
D'accord,
sinon,
d'accord. Et c'est étonnant, parce que je ne vous ai pas posé cette question-là, parce que vous y avez déjà répondu, avec tout ce que vous avez vécu et vu de la politique à l'échelle internationale, quelqu'un un jour vous a demandé, est-ce que vous croyez encore à la politique ? Et vous avez répondu, ah, peut-être que oui. Peut-être que oui. Donc vous avez encore, il y a une petite flamme encore d'espérance sur le fait que les hommes peuvent choisir le bien au lieu du mal.
Ah oh oui, bien sûr. Non, bien sûr. Oui, oui, absolument. Je suis pas. Je vous ai dit, je ne suis pas un pessimiste. Non, je suis un être normal. Je suis un réaliste. Et je suis plutôt optimiste parce que je connais la nature humaine. Je connais les limites de la nature humaine. Je connais les limites d'histoire humaine. Les limites de l'âge d'humanité même.
Et les limites de l'écrivain.
Toutes les limites, c'est-à-dire, et si vous connaissez ça, vous êtes libéré de beaucoup de choses.
Bien, ben, je vous salue, homme libre, comme aurait pu dire quelqu'un d'autre. Ainsi s'achève cette émission dont l'invité était donc le grand écrivain albanais Ismail Kadare. Et je rappelle qu'il a été installé en 1996 comme associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques et qu'il vient de publier chez Fayard un roman intitulé « L'entravée » où le mythe d'Orphée vient se télescoper avec la réalité à la fois tragique et bouffonne de la dictature communiste en Albanie au temps d'Enver Hoxha. Ismail Kadare, merci.
Merci à vous.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.